L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Bamako le géopolitologue malien Adama Diabaté et depuis Alger le docteur Abdelkader Soufi, enseignant chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida 2 en Algérie. Avec eux, nous allons analyser à bâton rompu plusieurs sujets concernant l'actualité politique, géopolitique, géoéconomique, sécuritaire et économique en Afrique, notamment au Sahel, à l'aune des bouleversements de l'ordre mondial. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Adama Diabaté, Abdelkader Soufi, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Bonjour.
Merci, Monsieur Louadj. C'est toujours un plaisir de participer à vos programmes.
Merci beaucoup.
Bonjour, collègues.
C'est pareil pour moi et aussi, j'en profite de l'occasion pour passer le bonjour à notre cher ami Adama Diabaté.
Bien. Alors, le principe de cette émission, j'ai choisi d'abord de brosser un tableau sur ce qui se passe dans le monde, parce que comme les choses interagissent entre elles, avant, et puis de voir comment ces changements-là impactent la situation dans tous ces vecteurs en Afrique, notamment au Sahel. Alors, la première question, elle concerne la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas palestinien, qui fait craindre actuellement un embrasement régional entre les alliés des deux camps. Et la situation extrêmement tendue dans le détroit de Bab el-Mandeb sur le golfe d'Aden, reliant l'océan Indien à la mer Méditerranée via la mer Rouge et le canal de Suez, est l'exemple le plus frappant depuis que le mouvement Ansarallah a décidé de fermer le détroit aux bateaux israéliens puis anglo-américains suite au bombardement du Yémen par les États-Unis et le Royaume-Uni. Et pour cause, actuellement, le trafic maritime de la mer Rouge a chuté de moitié par rapport à l'été 2023. Les navires transportant de la nourriture sont obligés de faire le tour de l'Afrique via le Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, risquant de livrer leur cargaison après sa date d'expiration. Ceci fait augmenter l'inflation, notamment en Europe et partout dans le monde, les pays qui reçoivent les marchandises via cette route commerciale. Alors, ainsi, comment lire ces événements dans la perspective de l'émergence d'un nouveau monde multipolaire qui s'accélère de plus en plus avec l'avancée de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine? Quel est le lien, à votre avis, pourrait-on identifier entre les différents foyers de tensions régionaux? Et ce qui nous intéresse le plus, quelle est la place de l'Afrique dans ces bouleversements, notamment les pays du Sahel? La parole est à vous, Monsieur Adama.
Bonjour, collègues, bonjour les auditeurs. Comme toujours, un plaisir de communiquer avec mon frère ami, mon collègue. Je salue mon collègue Soufi pour la première fois en contact, j'espère que pour toujours. Mon bon ami et mon bon voisin, parce que mieux vaut le bon voisin qu'un parent lointain. Et en fait, c'est basculement géopolitique, on a l'habitude de parler avec vous, et le comportement, disons de façon modeste, pays intelligent de la part de l'Occident dans leur support aveugle à Israël devait mettre fin à l'hégémonie occidentale. Je vois à travers cette situation au Moyen-Orient un événement pas tellement surprenant. Pourquoi? Parce qu'à chaque basculement géopolitique de telle ampleur, comme nous vivons aujourd'hui, et nous vivons aujourd'hui un changement épocal, c'est-à-dire comme 500 ans, il y a une civilisation, ou bien prétendue civilisation, qui a fait au monde ce qui lui plaisait. Et il arrivait à un moment, ils ont perdu le sens de la prudence, malgré les signaux, les premiers qui ont été déjà donnés depuis 1919 par un auteur allemand qui a écrit sur le déclin de l'Occident. Et on a l'impression aujourd'hui qu'il vit aujourd'hui, bien que l'ouvrage fait déjà 100 ans. Israël, en réalité, ça n'a jamais été un pays. Pour quelqu'un qui analyse et analyse bien, ça n'a été qu'un projet impérialiste. C'est comme ça que je comprends.
Oui, oui, absolument.
Un projet impérialiste qui était là, un moyen de jouer, comme on le sait, la théorie du chaos. Il faut toujours déstabiliser pour distraire et en profiter. C'est tout. Et je crois que ces événements, ces récents événements au Moyen-Orient, sont le début du financement, de la finalisation de ce qu'on appellerait dans une décennie Israël. Israël ne pourra plus jamais exister en tant qu'État. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que ceux qui devaient pérenniser l'existence de l'Israël aujourd'hui n'auront plus ces moyens.
D'accord.
Et ce phénomène de chute libre est irréversible et instoppable.
Et, d'accord. Alors, Abdelkader Soufi, en plus de ce que Adama Diabaté vient d'expliquer, comment voyez-vous ce qui se passe dans le détroit de Bab el-Mandeb ? Est-ce qu'il peut arriver aussi au canal de Suez, c'est-à-dire cette fermeture d'une ligne commerciale extrêmement importante ? Comment voyez-vous ça, son impact sur l'Afrique ? Quelle chose l'Afrique pourrait justement profiter de cette situation, du moment que ce qui se passe au Moyen-Orient justement sape la domination que l'Occident a instaurée depuis 5 siècles au moins, comme le disait Adama Diabaté.
En fait, bon, donc je réitère encore mes salutations à vous, au studio et particulièrement à notre cher ami et frère Adama, avec qui nous entretenons non seulement les deux, enfin je parle de nos deux pays, une relation historique, amicale, mais surtout fraternelle, car les peuples algériens et maliens, dans la continuité de l'espace, ils sont, frères, et ils sont plus que cela, ils ont un destin lié à vie. Donc, en ce qui concerne cette question, je suis tout à fait d'accord quand Adama dit que le sionisme est un projet impérial. Donc, c'est plus une organisation, je dirais, radicale pour une plateforme militaire qui sert de base avant pour l'Occident afin de garder la mainmise sur d'abord les voies de la communication et de l'économie mondiale d'un côté, mais surtout toutes les réserves de l'énergie, et sachant que cette région-là, c'est ce qu'on appelle, le coup du continent euphrasien, parce que quand vous regardez bien, l'Europe, l'Asie et l'Afrique sont liés à travers cette région-là, et qui est justement la Syrie, le Liban et la Palestine. Et cela touche, comme vous l'avez si bien dit, Bab el-Mandeb, qui est contrôlé par les Houthis. Ce qui se passe à Gaza, on peut le décrire de plusieurs façons. D'abord, il y a une résistance des Gazaouis, donc des Palestiniens, pour reprendre un droit qui est la décolonisation, parce qu'il s'agit d'une colonisation. Ensuite, il s'agit d'un problème du droit international qui est bafoué non seulement par l'entité sioniste, mais aussi maintenant par l'Occident, en donnant main forte sur le terrain, mais aussi en appuyant cette ce génocide au sein de l'Organisation des Nations Unies pour interdire toute action qui puisse nuire à cette création qui est l'entité sioniste. Il est vrai que il faut voir la corne africaine aujourd'hui du côté du Djibouti, Somalie, l'Éthiopie, le Somaliland qui sont devenus une convoitise des grandes puissances, et puis c'est plein de bases militaires, c'est à qui veut avoir une base militaire là-bas. Pourquoi ? Parce que justement, cette situation de pauvreté, mais aussi d'impuissance pour ces nouveaux petits pays, et qui les pousse à céder en face des grandes puissances. Là, nous sommes dans dans ce qu'on appelle l'anarchie mondiale. Donc le système mondial ou l'ordre mondial est un ordre anarchique, mais il est anarchiquement mûr. Et là, dans la théorie justement des néo-réalistes, peut expliquer réellement ce qui se passe là-bas, car l'Occident a compris que une menace est grandissante par rapport à de nouvelles puissances émergentes qui vont interférer par rapport aux intérêts de l'Occident, notamment la Russie et la Chine qui vient avec la route de la soie. Il y a l'émergence de pays importants en Afrique. Je citerai surtout l'Algérie et l'Afrique du Sud qui sont un poids assez conséquent et qui font face justement à tout cet Occident. Quand vous regardez bien ce qui se passe dans le monde, vous remarquez que nous sommes dans une situation de transition d'un ordre mondial vers un autre mondial, mais surtout ça ressemble à une deuxième guerre froide où les grandes puissances sont là.
D'accord. Et c'est le sujet de la deuxième question que je vous adresse justement dans l'élan de ce que vous avez développé durant la première, que je vous adresse à vous, Monsieur Diabaté. L'opération spéciale militaire russe en Ukraine et surtout les sanctions prises envers la Russie et leur effet boomerang, surtout après le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2, ont recréé pratiquement la même architecture mondiale que celle de la guerre froide. Et là, je parle sous votre contrôle tous les deux, et j'aimerais avoir votre avis sur ça. Alors, les États-Unis, l'Europe et Israël d'un côté, et en face, Russie, Chine, Iran, à l'origine du deuxième chèque pétrolier, je le rappelle, en 1979, avec une Arabie Saoudite qui sort progressivement, bien que on ne comprend pas actuellement sur quelle chaise ils vont se poser, de son inféodation à la puissance américaine. Alors, comment analysez-vous, Adama Diabaté, ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, entre le Hamas et Israël? La multiplication des conflits dans plusieurs régions du monde ne va-t-elle pas, à votre avis, aggraver le trafic d'armes et par conséquent le terrorisme, notamment en Afrique et notamment dans la région du Sahel qui a souffert depuis des décennies de cette situation?
Absolument, c'est la menace de la stabilité en Afrique. Mais cette question, ce n'est pas parce que les terroristes qui ont été défaits là-bas, ouais, ce sont une menace, mais leur maître qui les finance vont les utiliser en Afrique. Mm-hmm. Parce que le terrorisme, nous voulons voir le terrorisme comme un phénomène indépendant, alors que ça n'a jamais été indépendant. C'est une création occidentale, il faut qu'on se le dise, qu'on ne se gêne pas. Et une création occidentale est un instrument de guerre beaucoup moins cher pour l'Occident, pour réaliser ce que votre collègue Naomi Klein a l'habitude de dire, la théorie du chaos. Donc, c'est comme le ministre des Affaires étrangères de la France qui venait chez Lavrov pour lui demander de ne pas s'opposer à une résolution par rapport à la lutte contre le terrorisme au Mali. À quoi Lavrov lui a répondu, mais vous avez financé ces mêmes gens en Irak et en Iran et en Syrie pour tuer et faire du n'importe quoi là-bas. Et maintenant, vous les amenez au Mali, vous dites que vous voulez lutter contre. Et comment comprendre ça? Vous les avez utilisés en Syrie, en Libye, et vous dites maintenant vous allez lutter contre Mali. Et à quoi il a répondu? C'est la vie. C'est ça la réponse.
Ouais, c'est la vie.
Ça n'a pas plu au monde normal, mais c'est ça la réponse. Le terrorisme, ce n'est pas parce que quand ils seront défaits, ils vont venir en Afrique, c'est parce que quand la situation va se stabiliser là-bas, ils vont les transporter à une nouvelle tâche.
D'accord.
C'est pourquoi nous devons, et nous sommes condamnés, comme le frère vient de le dire, de nous y apprêter en tant qu'Africains, en tant que voisins, en tant que tous victimes de cette politique globaliste actuelle.
Bien, bien. Abdelkader Soufi, lorsque le grand journaliste américain Seymour Hersh a dévoilé comment l'équipe Biden avait fait exploser les gazoducs Nord Stream 1 et 2, il n'y a eu aucune réponse russe à ce qui était en fait un acte de terrorisme contre Gazprom, mais aussi contre l'Allemagne et contre pas mal de pays de l'Union européenne. Actuellement, le Yémen, avec un simple blocus, bouleverse désormais bouleverse désormais le transport maritime mondial. Alors, pour les Européens, il ne resterait que trois options. Une, parcourir 15 000 miles, soit 24 140 km autour du Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Deux, utiliser la route maritime du Nord que les Chinois, dans le cadre du partenariat stratégique russo-chinois, appellent la route de la soie arctique, c'est-à-dire qui longe toutes les côtes de la Russie du Nord, de la mer de Chine jusqu'à la mer Baltique. Et troisième option, c'est transporter leurs marchandises en provenance de Chine via les chemins de fer russes. Alors, peut-on dire que dans la situation actuelle, la Russie sort encore plus forte sur le plan géoéconomique? Et cela va-t-il également renforcer la place de l'Afrique dans ce sens? Oui, Abdelkader Soufi.
En fait, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Donc, nous vivons un monde où, qui a été créé par les Occidentaux, néanmoins depuis 1945. Et cet ordre qui a été créé pour eux est un désordre pour le reste du monde. Et là, je vais prendre quelques points importants comme étant des mots-clés pour expliquer d'abord. D'abord, pour les Américains, pour leur hégémonie, ils entendent séparer l'Asie de l'Europe et séparer ces deux continents de l'Afrique. Donc, d'où le croissant de crise qui va donc du Caucase, qui vient de l'Ukraine en passant par l'Asie mineure, le Moyen-Orient et l'Afrique, la Corne jusqu'aux côtes de l'Atlantique via la région sahélo-saharienne et le nord de l'Afrique que les Américains appellent aussi le MENA. Mais aussi il y a une autre chose très importante. Les Américains n'ont jamais abandonné leur projet du GMO, du Grand Moyen-Orient, qui a été lancé pour la première fois vers 1870, je pense, par Bernard Lewis et qui a à chaque fois été repris, mais d'une façon différente. Même Daesh, l'État islamique, quand vous superposez la carte géographique de l'État islamique et la carte du GMO, ça colle comme un gant sur une main. Mm-hmm. Ensuite, il y a, comme vous l'avez si bien dit, la route de la soie qui a été reprise par les Chinois avec le rêve chinois depuis pratiquement qui a été mis en place vers 2010-2012. C'est pourquoi les Américains ont mis le pivot asiatique en place avec Obama et qui a été élargi à la mer, plutôt à l'océan Indien avec Trump et qui est dans la continuité aujourd'hui avec Biden sous une autre appellation. Donc l'Inde était un problème et il fallait récupérer l'Inde. C'est là où ils ont créé le nouveau corridor américain depuis 2015 et qui est mis en exercice maintenant, et ça explique la guerre de Gaza et aussi celle de l'Ukraine de notre côté. Alors, autant d'éléments qui viennent nous expliquer pourquoi les Houthis, pourquoi le Yémen intervient. Au fait, dans l'ordre mondial actuellement, il n'y a pas de petits acteurs, il n'y a que des acteurs. Mmh. Et les acteurs sont d'ordre symétrique et asymétrique. Nous avons des acteurs supranationaux, intranationaux, et tout ce que vous voulez comme acteur. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a, dans les nouvelles guerres hybrides, il y a le système de réseau. Ce système de réseau où des groupes terroristes, des organisations non gouvernementales, des États, des multinationales, des services de l'information travaillent en communément pour mettre en place et pour dominer l'autre.
Mais
Brzezinski disait, je finis ici, Brzezinski disait, pour l'hégémonie américaine, il faudrait interdire l'émergence de toute puissance régionale.
D'accord.
Et séparer l'Asie de l'Europe. Pourquoi
d'accord.
L'Europe, parce que c'est la première colonie américaine après 1945. Et s'il y a 37 bases américaines en Allemagne, c'est pas pour rien. C'est comme disait Adama, c'est pour damer l'opium aux Allemands et interdire toute relation entre les Russes et les Allemands qui représentent vraiment aussi. Voilà.
Bien. Alors, je reviens vers vous, Adama Diabaté, par rapport à ce que M. Soufi vient de développer. Maintenant, ce qui m'intéresse dans tous ces bouleversements, c'est la position de l'Afrique. Comment l'Afrique devrait-elle se positionner? Comment elle est impactée? Et qu'est-ce qu'elle devrait faire, justement, pour tirer profit de cette situation? Alors, l'Afrique du Sud. Et là, j'aimerais rappeler un fait qui est très important, qui a précédé ce qui se passe actuellement. Alors, l'Afrique du Sud, la Russie et la Chine ont exécuté des exercices navals conjoints du 17 au 24 février 2023, c'est-à-dire une année après le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, au large de l'Afrique australe, non loin de la province côtière de KwaZulu-Natal, dans l'océan Indien. Il s'agit du second exercice trilatéral après l'entraînement conjoint des marines chinoises, russes et sud-africaines en 2019 dans les eaux du Cap de Bonne-Espérance. C'est ce qu'on a cité tout à l'heure concernant les voies commerciales. Alors, la position géographique, moi je suppose, stratégique de l'Afrique du Sud est certainement un des facteurs ayant motivé ces exercices, mais la situation actuelle aussi, je pense. Et en effet, se trouvant sur l'un des chemins de navigation des plus sensibles entre l'Amérique latine et l'Asie du Sud, elle peut également devenir un pivot du fret maritime venant de la mer Baltique et de la route arctique en direction de l'Asie du Sud en cas de fermeture du canal de Suez suite à la fermeture de Bab el-Mandeb. Et là, effectivement, la place de l'Afrique devient extrêmement importante. Alors, qu'en pensez-vous et comment voyez-vous le rôle de ces pays dans le contexte mondial actuel marqué par l'opération spéciale russe en Ukraine et la recrudescence des menaces militaires au Moyen-Orient, notamment au Yémen et au Golfe Persique? Et puis l'Afrique est-elle en passe de devenir un pivot des routes commerciales internationales?
Merci beaucoup, M. Loise, encore. Cette question, ça me revient très souvent. Quel sera le rôle de l'Afrique au XXIe siècle? Si je dois faire le sommet. Quoi qu'on dise, l'Afrique, c'est la fiancée la plus convoitée aujourd'hui dans tout ça. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que le Moyen-Orient est tellement aujourd'hui dans la miette, excusez-moi du terme, à cause de l'Occident, qu'on essaye de trouver un abri en Afrique. Mm-hmm. Oui, c'est encore un touché. Bon, les velléités occidentales par rapport à l'Afrique, ça n'a pas démontré, ça a toujours été. D'ailleurs, l'hégémonie occidentale s'est réalisée dans les deux de l'Afrique, dans l'ensemble, sans exception. Le pays a une plus ou moins mesure. Donc, je trouve tous ces bouleversements une occasion pour l'Afrique. Si les dirigeants pouvaient voir, sinon, que nous, au niveau de la communication des médias, on essaie d'éveiller nos compatriotes dans toute l'Afrique, sans exception. Et il faut cette communauté, ou bien communauté, ce sens de ces communautés, il faut qu'on les développe. Nous, ce qui sont très souvent, c'est les réseaux, c'est les toiles, et puis sur les télés. Pourquoi? Parce qu'on avait endormi tellement le peuple africain, puis là, cela arrangeait l'Occident. D'ailleurs, en privé, très souvent, pendant mes 37 ans en Europe, j'ai eu beaucoup d'occasions où, quand déjà dans un état comme vous pouvez imaginer lesquels, certains me diront, des politiciens de l'Occident, « Adam, pourquoi tu t'achènes autant? Une Afrique développée n'arrange jamais l'Occident, parce que ça va provoquer la baisse du niveau de vie. » Et j'ai dit, mais ça me touche pas parce que c'est honnête. Et parce qu'il n'est pas dans son état normal, c'est pourquoi il l'avoue, sinon il n'allait jamais le faire. Donc, c'est l'occasion rêvée pour l'Afrique. Vous savez, il y a un adage chinois qui dit que le singe là qui est malin, quand il voit les deux tigres là se battre, il se maintient là-bas au sommet de l'arbre avant qu'il s'abatte. Et après, maintenant, il descend pour se faire nourrir. Donc, maintenant que les États-Unis sont dans cette situation, et comme vous avez dit précédemment, je n'ai pas eu le temps de toucher à ça. Avec ces histoires en Ukraine et ces sanctions, qui sont en train de jouer en boomerang contre l'Occident, parce que le pays qui a été sanctionné, c'est le pays aussi économiquement, selon même le FMI, qui de l'heure n'est pas l'ami de la Russie, qui serait l'économie l'a mis en bon état en Europe cette année, grâce aux sanctions. Donc, cette histoire de l'Ukraine, comme on a eu à dire dans les, en passant, c'était pour mettre à genoux l'Europe. Et Dieu merci, ils ont réussi ça. Donc, l'Europe a mal, c'est l'occasion pour l'Afrique. Ça, ouais, je ne me gêne pas en disant l'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est l'occasion pour l'Afrique de laisser les petites velléités régionales. Parce que en matière d'État, il y a toujours ça. Ça va en gradation. Comme mon collègue vient de dire tout de suite, il y a des supranationaux, il y a des nationaux, il y a des intras, et il y a des petits groupes hostiles manipulés par tel ou tel ou tel ou tel. Maintenant, l'Afrique doit comprendre maintenant, et surtout les peuples africains, que c'est l'occasion rêvée pour nous de nous préparer davantage, parce que ces fauves, affamés, désespérés, vont s'abattre sur notre continent. Ne doutez même pas, parce qu'ils n'ont aucun autre recours. Ils n'ont nulle part d'autre pour aller, pour compenser les pertes qu'ils sont en train de subir sur le plan économique, géopolitique, géostratégique, d'accord, et sur tous les plans, même humanitaires. D'accord. Donc, l'Afrique est encore endormante. C'est là où on peut le plus vite et avoir la plus de garantie que vous allez compenser les pertes que vous faites contre vos titans ou bien vos concurrents des catégories comme la Russie, la Chine, sur d'autres terreaux géopolitiques.
D'accord.
Donc, l'Afrique, c'est le moment de se ressaisir et de laisser les petites mesquineries antagonistiques, sinon même de voisinage, ce qui est très normal, et vraiment faire quelque chose de sérieux pour que finalement le 21e siècle ne soit pas le siècle de la Chine, mais le siècle de l'Afrique, et cela doit l'être.
D'accord.
Et c'est ce rôle, avant de sortir, que je voulais conseiller, et ça tombe très bien à travers vous, à notre peuple frère, l'Algérie.
On y reviendra justement dans la seconde partie, parce que j'aimerais bien donner tout le temps nécessaire à cette question-là. Alors, chers amis, ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Je vous retrouve en compagnie de mes invités Adama Diabati et Abdelkader Soufi pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mes invités sont aujourd'hui le géopolitologue malien Adama Diabaté et le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida en Algérie. Adama Diabaté, Abdelkader Soufi, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre émission.
Bonjour Kamal, merci.
Bien, alors la première question ça s'adresse à vous, docteur Soufi. En 2023, suite au sommet Russie-Afrique qui s'était tenu à Saint-Pétersbourg fin juillet de la même année, Vladimir Poutine avait dévoilé que la Russie préparait des accords de libre-échange avec des pays africains parmi lesquels se trouvent le Maroc, l'Égypte, l'Algérie et la Tunisie, en soulignant l'importance pour Moscou d'accorder une attention particulière à d'autres régions d'Afrique et d'étendre la coopération. Et ce 8 février, le ministre russe du développement économique Maxime Rechtnikov a proposé à l'Algérie lors du Forum international Russie 2030 et Nouvel Ordre économique, facteur clé et rôle du business, à Moscou d'entamer les pourparlers pour la création d'une zone de libre-échange, effectivement. Alors, comment analysez-vous cette proposition russe dans le contexte régional et international que nous avons évoqué dans la première partie de notre entretien? Et puis, quels sont les bénéfices pour ces pays d'Afrique du Nord pour tirer un tel partenariat commercial? Et je rajoute que mardi 13 février, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé la volonté de son pays de créer des zones franches avec les 5 pays africains frères, la Mauritanie, la Tunisie, la Libye, le Mali et le Niger. Alors, comment on peut voir cette situation? et le commerce et les zones de libre-échange quand même nécessitent une espèce de d'harmonie entre les pays pour qu'ils puissent ouvrir leurs frontières dans la confiance mutuelle. Alors, qu'en pensez-vous et qu'avez-vous à dire par, justement par rapport à l'embrouille qu'il y a eu entre le Mali et l'Algérie dernièrement? À vous, Abdelkader Soufi.
Ah, d'accord. Ouais. Non, mais en fait, je vais expliquer la chose à partir de la vision algérienne. L'Algérie a connu une décennie noire où elle a connu le terrorisme toute seule et elle s'est battue contre le terrorisme. Et après, donc, nous avons compris ici en Algérie qu'il fallait compter sur une intégration totale entre les populations et un développement économique, social et politique et qui permet la stabilité en Algérie, donc des étapes. Aujourd'hui, avec l'avènement d'Abdelmajid Tebboune, qui a mis en place une visée économique assez importante et politique dans la continuité de la diplomatie algérienne. Donc, en fait, ça passe par plusieurs étapes. D'abord, ça a été le cas de signer des accords stratégiques avec les républiques voisines, la Mauritanie, un mémorandum avec le Mali, le Niger, la Tunisie, la Libye et voire même l'Égypte. La deuxième étape, c'était celle où Abdelmajid Tebboune avait annoncé la création de zones de libre-échange. Cela va dire que l'intégration des pays africains, notamment du Sahel et du Sahara, va dans le sens à s'entraider et développer une économie, notamment pour les pays enclavés tels que le Tchad, par exemple, le Niger, le Mali, qui en souffrent maintenant parce qu'ils sont sortis de la CEDEAO et avec le blocus, rappelez-vous, qui a été mis en place contre ces pays-là. Donc, il était envers non seulement ces États, mais vers les populations. Ensuite, donc, à un autre niveau, l'Algérie avait signé aussi des accords stratégiques et profonds avec la Russie, avec la Chine. La Chine, il y a le projet la route de la soie. Rappelez-vous que le port de Al-Hamdaniya, qui va donner une impulsion à l'économie africaine. L'Afrique, c'est 1,5 milliard d'habitants et un PIB de 3 000 milliards de dollars par an. Ce n'est pas rien. C'est un autre géant aussi important que la Chine. Et l'Inde, sinon, le plus important pour le futur, c'est un géant endormi. La Chine était un géant endormi. Les Africains commencent à comprendre conscience. Seulement, il faudrait pas qu'ils cèdent, justement, aux tentations et aux rumeurs. Car, comme vous avez parlé, par exemple, de l'embrouille entre le Mali et l'Algérie, l'Algérie n'a jamais eu de visée envers le Mali parce qu'elle considère le Mali comme étant un pays frère et amis, et au même titre, les Maliens. Elle a toujours développé une politique d'aide et d'écoute envers le Mali, que ce soit des aides financières, des aides militaires, des aides politiques. Quand la disette politique était là et l'impasse sécuritaire, l'Algérie s'est mise contre tous pour protéger justement ses amis maliens. La même chose, elle l'a fait pour le Niger. Et ce n'est pas aujourd'hui que par rapport à des dires, je sais que nos frères maliens ont été dupés par un rapport de RFI qui parlait que l'Algérie entretenait des relations contre le régime avec des fractions armées. Non, c'est faux. L'Algérie étant le médiateur et l'accompagnateur des accords d'Alger de 2015, et elle est partie au même pied d'égalité de ce qu'elle a fait en Algérie même, dans le consensus après la crise sociale et politique et sécuritaire en Algérie. Dans cette perspective, ces zones de libre-échange qui ont été créées, aujourd'hui la Russie aussi annonce un projet économique important, et c'est tant mieux. Cela veut dire que nous sommes dans une perspective de créer une intégration entre les pays du Sahel, du Sahara et ceux du Nord, avec l'Algérie qui veut les aider, mais qui attend beaucoup d'eux aussi. Elle ne peut pas défendre toute l'Afrique toute seule. Il faudrait que les Africains, eux aussi, agissent dans le même sens.
D'accord.
Maintenant, aux partenaires exogènes tels que la Russie, la Chine, peut-être la Turquie ou autres, ce sont des partenaires qui viennent dans le sens gagnant-gagnant. Il faudrait bien qu'on aille dans ce sens-là.
D'accord. J'aimerais passer la parole à notre ami Adama Diabaté. Alors, comment réagissez-vous à ce que M. Souffé vient de dire et quel est votre avis justement sur cette chance de créer des marchés et des zones de libre-échange, c'est-à-dire entre les pays de l'Afrique du Nord, de l'Afrique, des pays du Sahel et tout ça dans un esprit d'intégration pour ouvrir ces marchés dans un cadre de coopération gagnant-gagnant avec la Russie, la Chine et d'autres, surtout dans le contexte actuel qui est très favorable à ce que ces pays puissent émerger. La parole est à vous, M. Diabaté.
Absolument, M. Loage. Vous avez bien constaté et remarqué, c'est une occasion rêvée pour les Africains de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'intégrer. Toute l'humanité se développe cette fois aujourd'hui, sauf l'Afrique. Pourquoi? À dessein. On fait tout pour que l'Afrique ne s'entende jamais. Parce qu'il y a une Afrique soudée, c'est une Afrique développée. Une Afrique développée, ça va amener indéniablement, inévitablement, la baisse du niveau de vie de l'Occident. Parce que ce niveau de vie est entretenu par l'exploitation de l'Afrique. Bon, quelqu'un va dire que non, c'est le slogan. De vieux slogans révolutionnaires, non, c'est pas ça, c'est littéralement. Comme Poutine a dit récemment, l'année dernière, il dit enlever de tout ce qui est volé de l'Afrique, de l'Europe aujourd'hui, on va retourner à l'âge des pailles. Et là, on ne pouvait pas mieux illustrer que ça. Et par rapport à cette chance, elle est là, il faut la réaliser. D'ailleurs, ça avantage beaucoup les pays dont les économies sont avancées, beaucoup plus avancées et régionalement. J'ai en vue ici l'Algérie, le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Égypte et tout le reste. C'est de cela que je voulais en venir à cela. Quand je disais qu'il faut pas que l'Algérie tombe dans l'erreur de la France dans le temps et certains autres pays. C'est-à-dire, elle a une chance idéale à cause de notre voisinage, avec son voisinage avec le Sahel. Avec le Maroc aujourd'hui, c'est l'Algérie qui est le plus avantageux. Il faut savoir gérer cet avantage. Et l'Abrou dont vous avez fait allusion, effectivement, j'étais l'une des personnes ici à interpeller notre ministre des Affaires étrangères. C'était fait le vendredi et le mercredi, c'était fait pour qu'il appelle l'ambassadeur de l'Algérie et qu'il lui explique qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal entre les bons voisins. Mon collègue sait qu'il a dit, j'ai dit oui, il y a une partie de cette désinformation française. Mais l'Algérie, l'histoire de l'Algérie, du Mali se ressemble beaucoup. Je prends depuis la guerre d'indépendance de l'Algérie. En 63, quand il y a eu le premier mouvement, Mourou Keïta n'est pas allé par mille fois. Il a appelé Ben Bella. Il a dit, mon frère, vous venez. C'est le problème qui concerne nos deux pays. On s'assoit, on trouve des moyens. On met une solution à cette situation. Et ça a été fait sans bruit, sans rien. Et maintenant, et la dernière fois, ce qui a été l'erreur de l'Algérie, je me permets, je suis africain, et l'Algérie est africaine, le Mali est africain, donc je suis algérien, je suis malien. Donc je peux bien me permettre, et je vais le faire. Et d'ailleurs, le premier ministre algérien, quand il est venu, il a avoué. Ce qui n'a pas plu au Mali et ça n'allait jamais plaire à l'Algérie, connaissant géopolitiquement l'Algérie par rapport à ces questions, les chefs rebelles ont été invités en Algérie et notre imam, le fameux imam Diko, a été invité en Algérie alors qu'il est dans un état d'opposition au gouvernement actuel, sans passer pas le gouvernement malien. Et c'est ce qui a été l'erreur diplomatique réellement. D'ailleurs, avoué par l'Algérie officielle. il faut qu'on se le dise en bon voisinage aussi. Si jamais un pays voisin ferait ça avec l'Algérie, ce serait un scandale. Parce que l'Algérie, d'ailleurs, au moment du début de la crise malienne, quand il y a eu des prises d'otages à Ina Rafeni, là, vous vous rappelez, même l'ère occidentale, l'Algérie n'a pas accepté. Ce que j'ai beaucoup apprécié, parce que ce qui montre vraiment son indépendance. Dans les questions sécuritaires, un pays qui ne parvient pas à assurer sa sécurité, tu n'es pas indépendant, tu ne peux pas prétendre être indépendant. Donc, on a mis ce chef de l'Algérie dans ce carnaval. Maintenant, quand l'Algérie veut traiter maintenant avec ses voisins, là, je suis obligé ici d'être très direct et de donner un conseil à mes frères algériens de ne pas perdre cette opportunité qui est là déjà, une prédisposition émotionnelle, mentale par rapport aux Algériens au Mali et au Niger, parce que je sais en Mauritanie encore plus, considéré comme le grand voisin du Nord. Donc, il faut en profiter, il faut mener une politique endogène, une politique qui ne sera pas influencée ou bien qui ne va pas donner l'apparence, l'impression à nous, les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés, les autres, qui sont influencés par d'autres ennemis extérieurs à l'Afrique. C'est cette situation qui est arrivée. Si c'est par erreur, nous allons nous en réjouir. Si ce n'est pas par erreur, je vais conseiller à nos officiels algériens de finalement profiter, parce que c'est eux aujourd'hui les quelques pays qui sont les têtes de proue en Afrique. C'est l'Afrique du Sud, c'est l'Algérie, comme le collègue l'a cité, c'est l'Égypte. C'est vous qui devez être jaloux maintenant de l'avenir d'autres puissances extérieures à l'Afrique. Même dans ces histoires de zones de libre-échange. Mais c'est l'Algérie qui gagne de tous les côtés parce que son économie dévance de loin les autres économies qui sont là. Et là, ça avantage. C'est comme l'Allemagne a fait avec l'Europe. Donc, au vu de ces opportunités, le meilleur moyen de résoudre ces problèmes ethniques, antagonistiques, ces histoires d'indépendance, c'est l'intégration et le développement économique. Quand l'économie fleurit, il y a beaucoup moins de ces problèmes. Et c'est ce volet que l'Algérie devait privilégier dans sa politique extérieure par rapport à ses voisins aujourd'hui pour qu'il y ait réellement la confiance là qui était, y revienne. Sinon, je vais dire à mon collègue de prendre le temps un peu d'analyser l'accord d'Alger, ce qui était là-dedans. Sachant l'Algérie, un tel accord n'allait jamais passer en Algérie, jamais osé. L'Algérie n'a jamais accepté de telles choses dans la résolution des problèmes dont lui-même il a évoqué. Quand il y a des problèmes comme ça, oui, quand on t'invite, tu mets. Mais quand l'accord d'Alger a été fait, c'était à un moment où le Mali était à genoux. Le Mali n'avait pas de gouvernement. D'ailleurs, je peux le dire maintenant, le premier général qui gérait en ce moment l'aménagement, il était ami avec un général russe dont j'invitais de temps en temps ici. Une fois, dans certaines situations exceptionnelles, il a dit à m'avouer des choses beaucoup, beaucoup implaisantes. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire en fait que je conseille encore une fois, parce que cette question me tient beaucoup à cœur, et je suis dans une situation très, très mal à l'aise. Et après ces scènes-là, je me suis senti très, très, très mal à l'aise, honnêtement. Pourquoi? Parce que la voie la plus rapide pour l'Afrique de sortir de cette domination, et pourquoi pas redominer ceux qui nous ont dominés? Parce qu'ils nous ont dominés au dépend de nos ressources, qu'on s'approprie ces ressources, qu'on fasse un peu du chauvinisme africain entre nous, sans distinction. Tiens, nordistes, tiens, sudistes, ça, c'est des mesquineries qu'on essaie de nous semer entre nous. On va opposer les Touaregs aux Noirs, ou bien aux Jaunes, ou bien à l'Arabe. Ça a toujours été. C'est divisé pour régner. Je voulais que l'Africain comprenne ça, mais surtout nos dirigeants politiques. Qui se rehausse au-dessus de ces mesquineries pour finalement, pas seulement que l'Afrique s'en sort. Là, je suis convaincu et on est condamné et on sera maudit à l'au-delà si nous n'allons pas revenir, comme Kadhafi a dit, à reconquérir l'Europe. On a toutes les chances pour ça. Seulement, nous devons comprendre que
d'accord.
L'Afrique doit être considérée comme une unité, soit à perdre ensemble, soit à gagner ensemble.
Bien. Abdelkader Soufi, je crois que M. Adama Diabaté, il me semble, il a soulevé, je crois que vous n'êtes pas très différent dans ce que vous essayez, bien que vous regardez le problème de deux angles différents, mais il a quand même soulevé deux choses sur lesquelles j'aimerais bien que vous... Il a dit que lorsque l'accord d'Alger a été conclu, le Mali était faible. Et ça, c'est une vérité. Et que maintenant, le pouvoir actuel, qui est soutenu par le peuple, veut justement qu'il y ait une solution, mais qu'il soit une solution intra-malienne. Intra-malienne, c'est-à-dire négocier à l'intérieur du Mali. C'est ce que l'Algérie a toujours fait, en n'acceptant jamais qu'un tiers vienne s'interposer pour établir un tel ou tel solution. Alors, qu'avez-vous à dire par rapport à ça?
En fait, bon, je vais prendre, donc, avant de répondre, il faut dire que l'Algérie a été toujours honnête dans son action vis-à-vis de qui que ce soit à travers le monde, hein, avec ses ennemis et avec ses amis.
Ce n'est pas, et le monsieur Adama Diabaté n'a pas dit que l'Algérie n'était pas honnête. Il a dit que elle a commis une erreur. Même si quand on est.
Non, mais justement, c'est important ce que je vais dire. Moi, je parle en tant qu'Algérien, mais je parle en tant que Malien aussi, hein. J'ai beaucoup d'amis maliens. Et je me considère sahélo-saharien, car l'Algérie aussi est un pays sahélo-saharien, qu'on le veuille ou pas. Et puis, indépendamment de la couleur de la peau, on peut être blond, noir, brun, tout ça, on est des êtres humains et on a les mêmes sensations. Et quand vous pincez l'un ou l'autre, il va dire « aïe ». Et quand on est mort, le squelette ne va pas dire que cela est un blanc ou cela est un noir. On est d'accord. Maintenant, ce qui concerne les accords, justement, d'Alger. Construire la sécurité ne veut pas dire construire la force. Des fois, on est induit à l'erreur. On sait que nous sommes puissants, qu'on devient, dire qu'on a assumé notre sécurité. Des fois, ça nous joue des tours. C'est parce qu'on va vers la construction de la puissance qu'on oublie de construire la sécurité. La sécurité, elle est complexe et indivisible. Elle est sociétale, elle est sociale, elle est économique, elle est politique et elle est militaire. C'est un tout. L'Algérie, quand elle est venue aider le Mali en 2015, elle l'a fait en 2012, elle l'a fait en 2009, elle l'a fait en 2003, elle l'a fait à tout moment où nos amis maliens avaient besoin de nous, parce qu'on n'oublie pas que le Mali, durant la guerre de révolution, nous a beaucoup aidés. On n'oublie pas, nous, en Algérie. Et on sait que le Mali a beaucoup aidé l'Algérie. Et aujourd'hui, c'est tout à fait normal que quand on vient et quand on est responsable, au moins quand on est dans ces accords, on ne veut pas que parce qu'une partie est devenue, que l'État est devenu puissant, que il sort des accords ou dire que les accords ils sont intramaliens, nous n'avons jamais été dire qu'ils ne sont pas, ça ne concerne pas les Maliens. L'Algérie, le rôle qu'elle a joué, c'était accompagner les Maliens. Et elle n'a jamais dicté aux Maliens et à qui que ce soit. Son seul souci, c'est de voir un Mali reprendre sa vie politique à l'international sereinement et avec souveraineté. Et pour ce faire, l'Algérie s'est mis le monde entier contre son dos et elle se retrouve dans une situation et où tout le monde le sait, je pense que Adama le sait, qui est attaqué de partout. Hein. Aujourd'hui, par rapport à ses positions inflexibles quant à la question du Sahara occidental, quant à la question sécuritaire au Sahel, par rapport à la Palestine, c'est, vous savez que nous sommes l'un des rares pays qui s'oppose justement au fait accompli. D'accord. Et qui ne se fait pas dicter la chose. Il faudrait que nos amis maliens sachent, et je le dis en tant que, je vais essayer de le dire en tant que malien. Si cet État agit comme ça, et il le fait pour nous, qu'est-ce qu'il veut en retour? Eh bien, il ne veut rien. Il veut juste que ses frontières et que les gens qui vivent aux frontières, qui sont frères et amis, vivent visiblement et s'épanouissent ensemble. Donc, il ne faut pas regarder cela et donner une possibilité aux autres, car un clivage, si le Mali rentre en discorde avec l'Algérie, il aura qui? il aura qui comme ami Ali qui va l'aider son retour. Ben, il
d'accord.
L'aura pas. Tout le monde.
Adama Diabaté. Donc je vous laisse dire un dernier mot sur cette question-là, mais avant ça, j'aimerais bien vous poser donc la question suivante qui est en lien directement avec cette question très importante, parce qu'il ne peut pas y avoir de paix, il ne peut pas y avoir de sécurité, il ne peut pas y avoir de solidarité sans développement. C'est une chimère et c'est faux. Et donc là, dans ce point de vue, les pays du Sahel, donc le Mali, le Niger, le Burkina Faso, cherchent à créer une monnaie commune, et d'ailleurs les chefs d'État l'ont annoncé plusieurs fois, dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, qui pourrait être jointe par d'autres pays souhaitant, pourquoi pas l'Algérie d'ailleurs, et pourquoi pas la Libye, pourquoi pas l'Égypte, pour justement avoir cette indépendance, et d'autres pays de la CEDEAO. Alors cette dernière est accusée d'être l'un des bras justement du colonialisme français en Afrique. Alors, qu'en pensez-vous? Et est-il nécessaire qu'une telle initiative soit adossée à d'autres partenaires beaucoup plus forts, comme la Russie et la Chine, fiables, comme la Russie et la Chine, pour voir le jour et assurer une souveraineté totale à ces pays?
La question, comme toujours, elle est très bien posée, très claire et très compréhensible. Vous avez parlé de ce que nous nous adossons à des pays plus puissants. Oui, tel est le cas. Nous sommes adossés à ces pays. D'ailleurs, tout ce qu'on a déjà pu faire, c'est grâce à la protection de ces pays. Oui, nous-mêmes, nous menons nos activités à l'intérieur, mais quand le besoin est là, ces pays-là sont toujours à nos côtés et nous en sommes très reconnaissants. Pour un peu, avant de répondre à la deuxième partie de la question, pour ajouter, je dirais, à ce que mon collègue et ami vient de dire, Sophie, ce n'est pas que le Mali a une approche autre que on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire, de tout temps, le Mali a traité l'Algérie comme, je dirais même, un grand frère, littéralement. Mais comme Kamal l'a bien dit, ce qui n'a pas plu au Mali et que l'Algérie ne va jamais accepter, pour qu'on se le dise, je répète encore, c'est que les problèmes maliens doivent être résolus à l'intérieur du Mali. Et tous les pays qui se répètent sur le monde le font. En premier lieu, l'Algérie. L'Algérie est un peuple très, très fier. Très, très, très fier. Même hors de l'Algérie. Croyez-moi, le Malien n'en est pas moins. Si on va se comprendre comme ça, je répète encore, vous ratez une excellente chance. Je le dis de telle manière, peut-être ça va pas plaire certains, mais c'est pour vous réveiller, pour que vite là vous vous retrouvez et on vous attend. C'est-à-dire, l'Algérie devait être l'économie dominante dans cette sous-région. Et les portes ont été grandement ouvertes pour l'Algérie. Au lieu de laisser son concurrent, qui ne mérite pas, dont on ne fait pas confiance. Je vous dis ouvertement, je vous parle ici en tant que spécialiste, pas en tant que politicien. Et il faut pas que l'Algérie rate cette situation. Tout le reste qu'on est en train de dire là, c'est des détails. Il y a eu erreur. Il faut les reconnaître, il faut les corriger et qu'on s'en aille. Que l'Algérie prenne le Mali en duplicate. Tout ce qu'elle ne va pas accepter chez elle, qu'elle ne permette pas que ça se passe au Mali. Et comme l'Oise vient de le dire, on se concentre primordialement sur l'économie.
Le développement,
quoi qu'on dise, exactement. En le développement, tout le reste là. Ça, on va parler encore 100 ans, ces problèmes-là vont rester. C'est ce qui doit être la priorité maintenant. Donc, on allait demander à travers vous, à l'Algérie, c'est de tout faire pour apaiser ceux qui ne sont pas pour l'indépendance de la souveraineté de ce pays, de se calmer et de laisser la chance à la vie. Quand je dis la vie, la chance au développement, à l'économie. Et dans un pays développé, vous n'allez pas entendre ces mesquineries de sécession ou bien de quoi que ce soit. Maintenant, par rapport à l'AIS, l'AIS, c'est une entité, est-ce que ce n'est pas l'entité la plus naturelle en Afrique, sur le plan culture commune, sur le plan géopolitique, stratégique, historique et tout ce qui s'en suit. Et l'AIS est sortie pas par méchanceté ou par quoi, parce que finalement, après la sortie de Barkhane, de la France, Takuba, Minusma, La CEDEAO était devenue maintenant l'instrument majeur, le relais local où toutes les activités anti-africaines se passaient. Malheureusement, ces chefs d'État se sont laissés prendre en otage par l'Occident. Vous avez vu l'avant-dernier réunion de la CEDEAO. Est-ce que, non, sans blague, hein, mes frères et collègues, et on avait l'impression qu'on était en Europe à un sommet de l'Union européenne, tellement il y avait des têtes blanches là-dedans. Hein? Non, écoutez, c'est humiliant pour l'Afrique. Une organisation de ça, c'était humiliant. Et les sanctions qu'on a prises contre les pays frères, et sur le dictat des pays impérialistes, mais c'est des sanctions qui ne sont même pas prévues dans le statut de la CEDEAO. Même pas prévues. Et vous avez vu avec Alassane, troisième mandat, ça c'est bien, on l'applaudit. Et Idriss Déby, le Déby fils, assassine son père là-bas, on vient à son intronisation. Et le peuple s'élève au Mali, il n'y a même pas eu de bain naissant, et on condamne. Et dans tout ça, l'organisation qui a été créée après les événements douloureux de Biafra, pour ne pas oublier, c'est un président nigérien même qui se met à la tête de ces actions de trahison, de traîtres et puis de relais locaux ou bien de nègres de maison. Excusez-moi du terme, ça fâche. Et maintenant, les pays côtiers comme le Togo, la Guinée et beaucoup d'autres vont faire la guerre tout de suite pour s'associer à l'AIE. Et vous allez voir, et la question de monnaie, mais on est condamné, M. Loache. Le franc CFA, c'est de la merde, excuse-moi du terme. Sans rentrer dans les détails, c'est impossible. Comment l'humanité, bon, comme beaucoup ne savent pas, ça veut dire quoi? Sinon, c'est un crime.
Adama Diabaté, le dernier mot, s'il vous plaît. Donc, si, imaginons, hein, allons-y, rêvons un peu, que les pays de l'Afrique du Nord se joignent aux pays du Sahel dans cette alliance, y compris monétaire. On a des côtes, ces pays vont avoir des côtes au nord de l'Afrique, ils vont avoir des côtes au sud de l'Afrique via la Guinée et peut-être le golfe de Guinée et ainsi de suite. Est-ce que ça ne sera pas une espèce de fleuron économique et industriel qui pourrait justement tirer non seulement cette région, mais le continent complet vers le haut?
Le monde, pas l'Oise, le continent, déjà, je ne dramatise pas. Ça pourra, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui dis, les Nations Unies disent qu'aujourd'hui, des ressources explorées et connues, 64% c'est en Afrique. Mmh. Et les 7 produits les plus stratégiques, ça va de 47% à 94% possession africaine. Imaginez si on parvient, d'où j'insiste surtout sur le leadership de nos frères locaux. On devait faire une sorte de chauvinisme africain. Et croyez-moi, Loage, si les politiciens pouvaient me comprendre, et surtout dans ces quelques pays qui sont les leaders aujourd'hui en Afrique, notre frère Algérie est condamné à jouer son rôle dans la grande famille. Il faut le faire tout de suite.
D'accord.
Et laisser les mesquineries et les choses à côté. Et je vous promets, sur cette lancée, je vous promets, Loage, nous allons dominer, redominer l'Europe. Et je vous promets, et c'est pas nos enfants, nous, parce que elle n'aura rien de quoi vivre. Et je vous dis ouvertement avant de quitter, c'est mon rêve.
D'accord.
Et je voulais que nos leaders m'entendent.
Nous le partageons tous, Adama Diabaté, je vous l'assure, autant que moi, que Monsieur Soufi et de tous nos auditeurs. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Adama Diabaté, Abdelkader Soufi, ça a été un plaisir de discuter avec vous et je vous remercie d'avoir pris de la distance par rapport aux effets émotionnels de ce sujet-là et de l'avoir analysé avec froideur et avec esprit justement positif en vue de trouver des solutions et de faire avancer les choses. J'espère vous retrouver dans les semaines prochaines dans un autre débat pour parler d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
Un plaisir. Salut à mon frère.
Salut.
C'est un plaisir.
C'était le géopolitologue malien Adama Diabaté et le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida 2 en Algérie. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique, en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt dans une autre édition. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.